Radio Okapi. Parité et famille. Retrouvé dans Parité et Famille, je suis Nicole Koudiangela et Alain Goya sur la mise en onde. Aujourd'hui, nous allons parler de la participation politique de la femme. Vous le savez, la RDC entre dans sa période électorale. Le 23 décembre prochain, les Congolais seront aux urnes. Mais, malgré les importants progrès réalisés en matière d'égalité entre les sexes, la politique demeure le précaré des hommes. Les hommes continuent d'occuper majoritairement les postes clés à tous les niveaux dans les sphères décisionnelles et dans tous les secteurs de la politique. Malgré le travail de sensibilisation et de plaidoyer réalisé à tous les niveaux et dans tous les pays ces dernières années, la première décennie du 21e siècle s'achève sur le triste constat que la femme reste encore minoritaire en politique. Merci donc de suivre ce magazine. Où sont les femmes en politique? Dans le monde, en 2018, selon les chiffres d'ONU Femmes, la moyenne des pourcentages des femmes dans le Parlement est de 21% en Amérique, 20% en Europe, 18% en Afrique subsaharienne, 18% en Asie, 12% dans le Pacifique et 9,1% dans les pays arabes. Aujourd'hui, la situation a quelque peu évolué par rapport au début de la première décennie du 21e siècle. En 2000, les chiffres étaient de 16% en Europe, 15,9% en Amérique, 15% en Asie, 13,6% dans le Pacifique, 12,1% en Afrique subsaharienne et 3,1% dans les pays arabes. Ces pourcentages, qui sont tous bien inférieurs à l'objectif minimal de 13% fixé par les Nations Unies, cachent d'énormes disparités entre les pays dans l'ensemble. Le Rwanda est en avance sur tous les autres pays avec 56,3% des femmes. Il est suivi par la Suède avec 47%, le Cuba 43,2%, la Finlande 41,5%. En RDC, en 2011, il y avait 40 femmes députées sur les 500, soit 8%. Et comme vous le savez, le 23 décembre, les électeurs seront aux urnes en République démocratique du Congo pour des élections présidentielles, la députation nationale et provinciale. La commission nationale électorale a déjà reçu les candidatures. Nous allons donc écouter le vice-rapporteur qui va parler des pourcentages de la situation des femmes cette année, en 2010, pour les élections 2018.
Engouement, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que au regard du fichier où les femmes sont représentées à 51%. Mais quand vous regardez par rapport à ces chiffres-là, où il y a plus de femmes dans la liste électorale, il n'y a que 11% des femmes qui sont présentées comme candidates aux élections provinciales. 11%, c'est-à-dire qu'à ces jours, nous avons enregistré 1842 candidatures de femmes sur 17 355 candidatures déposées. Bien sûr, ce chiffre est évolutif. Il n'est pas statique, il est dynamique. Parce que je vous dis que c'est un monito au jour le jour qu'on est en train de traiter les dossiers. Et à cet égard, je pense qu'en rapport avec les instruments juridiques internationaux et nationaux ou qui prônent l'égalité, prônent la parité, je pense que 11% c'est quand même assez moindre.
Mais la parité exige au moins 30%.
Oui, ça c'est le texte qui le dit, car la parité exige 30% minimum. Mais il ne faut pas oublier que les élections constituent une compétition. Donc les élections ont, je peux dire globalement, trois volets, si pas quatre. Il y a un volet technique, il y a un volet politique et il y a un volet sur le plan des compétitions. C'est une compétition, c'est pas un cadeau. Il faut que les femmes apprennent à se battre comme des hommes pour se ranger en ordre utile. Et à ce point de vue, on constate qu'elles accompagnent plus les hommes, des raisons que moi j'ignore. J'en connais quelques-unes, mais elles-mêmes peuvent nous dire pourquoi elles ne sont pas suffisamment représentées à l'élection des députés provinciales, du moins jusqu'à ces jours.
Oui, vous avez parlé de 11%. Est-ce que vous pourriez nous dire, comparativement aux élections précédentes, est-ce qu'il y a évolution ou il y a régression?
Comparativement à 2011, je peux dire que en 2011 également, évidemment en 2011 c'était les élections des députés nationaux, c'était également 11%. Et en 2011, pour les candidats de président de la République, il n'y a pas eu de candidat de femme. Donc c'était zéro. Mais en 2011, les femmes étaient à 49,7% de l'électorat, pendant qu'en 2018, elles sont à 51%. Alors, si nous allons encore en 2006, là nous pensons que par rapport à 2006, là les femmes étaient à 52,6% de l'électorat. Et au niveau de la présidence de la République, il y a eu 12% des candidates, soit 4 femmes sur 33 candidats présidents de la République. Au niveau des gouverneurs, évidemment, il n'y aura pas d'élus femmes. Au niveau des gouverneurs, nous avions 9,61% des candidates pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, soit 15 candidates sur 156 candidats pour 22 postes naturellement, et il n'y a eu zéro élu. Et pour la députation nationale, nous avions 8,4% des députés nationaux, si vous voulez, femmes, oui, mais il y avait 42 sur 500 élus en 2006. Et pour les sénateurs, nous avions 5 sénatrices sur les 108. Et pour la députation provinciale, nous avions 6,8% élus, soit 43 députés femmes sur les 632. Donc 6,8%. Et en 2006, on a coopté une seule femme, chef coutumière. Voilà donc de ce qui est les statistiques. Mais au niveau mondial, je peux vous dire que les statistiques, là je donne les sources, selon l'IDEA, selon l'ONU Femmes, selon les rapports de l'Union interparlementaire et selon les statistiques des femmes dans les parlements à travers le monde, les femmes détiennent en moyenne 20% des sièges parlementaires à travers le monde, selon les sources que je viens de citer. Je dis bien c'est une moyenne, mais il y a des pays, il y a des pics dans certains pays. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins, mais la moyenne, c'est 20%. Ça, c'est au niveau mondial. Mais en Afrique, si nous prenons l'Afrique, nous avons 12 États africains sur les 36 États au niveau mondial qui dépassent la moyenne de 30% des sièges occupés par les femmes au Parlement. Donc, sur le plan mondial, il y a 12 États africains sur les 36 États à travers le monde, qui atteignent 30%. Je dis bien, c'est une moyenne, mais il y a des États qui dépassent largement les 30%. Mais les Rwandais en Afrique occupent la première place avec 61,3% des femmes au Parlement.
Mais pourquoi la politique reste l'apanage des hommes? Eh bien, nous allons d'abord suivre les avis d'un historien. Il s'agit du professeur Nawej qui s'exprime au micro de Nei Kabena. Il va nous donner donc la chronologie de la participation politique des femmes.
Professeur Nawej, bonjour.
Bonjour maman.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans Parité Famille.
Oui, j'aime ça.
Alors, vous êtes historien.
Oui.
Dites-nous l'histoire de l'émergence de la femme au Congo. Ça a commencé à quelle époque?
Merci madame. Je dirais que nous pouvons remonter à l'époque coloniale ou à l'époque précoloniale. À l'époque précoloniale, la femme était toujours à côté du chef. Mais la femme agissait en coulisses. C'est que politiquement, la femme n'émergeait pas. Mais elle participait la nuit à des décisions avec son mari pour dire, pour tel problème, il faut résoudre comme ça, comme ça, comme ça. La femme existait déjà, mais elle n'émergeait pas.
Donc en tant que notable,
en tant que notable,
participait à cette prise de décision, mais comme conseillère.
Comme conseillère, tout simplement. Vraiment comme conseillère.
Okay.
Pendant la colonisation, il y a les Belges qui viennent, et même les Belges ont privilégié l'éducation des garçons par rapport à l'éducation des filles. Ce qui fait que les filles, on a mis surtout les écoles ménagères, où elles devaient apprendre à raccommoder les habits, à repasser, à entretenir. Oui, et les femmes, si elles pouvaient encore étudier plus, c'est à l'école
Coupe-et-couture. Là, qui avait 4 ans seulement.
Oui, 4 ans seulement, et ça s'arrête. Ce qui fait que même à l'époque coloniale, on n'a pas privilégié la formation intellectuelle des femmes.
Alors, le blanc a suivi la culture de l'homme noir à cette époque-là?
On peut dire en quelque sorte.
Okay.
Alors, quand nous accédons à l'indépendance, la situation ne change pas tellement. Même les parents privilégient toujours l'éducation des garçons en disant, bon, les filles sont bonnes pour les mariages, jusqu'à 4 ans ou 2 ans post-primaire, elles seront mariées. Mm-hmm. C'était toujours les garçons qui étaient privilégiés dans les études. Il faut attendre l'année 1975, au niveau international, l'émancipation de la femme. Mm-hmm. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à voir la femme émerger. Elle émerge. Mais nous pouvons dire quand même une chose, si on recule un peu, nous avons vu déjà Madame Liao Kanza, mm-hmm. qui est pratiquement la première femme congolaise à entrer dans un gouvernement comme ministre.
Elle assurait quelle fonction à ce moment-là?
Elle est, je crois, ministre des Affaires sociales. Oui, c'est la première femme congolaise à entrer dans un gouvernement comme femme.
Voilà.
Alors, à partir de 75...
Alors, vous avez dit Marcel Liao.
Oui, oui.
Ça veut dire le nom de son mari.
Oui,
non, mais c'est son nom.
Non, Kanza Liao.
Ok. Madame Kanza Liao.
Liao, okay. Madame Kanza Liao, qui est la petite sœur de Thomas Kanza.
Okay.
Thomas Kanza, qui est le premier universitaire congolais.
Super.
Alors, oui. Elle va travailler comme ministre et à partir de 75, avec l'émancipation de la femme va quand même à commencer à accéder à des fonctions politiques. Mais je connais quand même un peu quelques statistiques, jusqu'au moins dans les années 80.
Mm-hmm.
C'est à peu près 2 à 3% des femmes qui sont dans le gouvernement de Mobutu. Les femmes ne dépassaient jamais 3%. Donc, pour dire que la participation de la femme était toujours faible. Mais je constate que à partir des années 2000, avec la démocratisation de notre pays, surtout avec l'entrée de M. Laurent Désiré Kabila, on voit de plus en plus les femmes participer à la vie active. Que ce soit en politique, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les services. Mais, malgré cela, le pourcentage a quand même un peu augmenté, mais pas tellement. C'est-à-dire qu'on sent que la femme reste toujours à la marge. Elle n'émerge pas tellement.
Et vous venez de suivre la chronologie de la participation politique de la femme avec le professeur Nawej, qui s'exprime au micro de Neyi Kabena. Je rappelle, il est historien.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Nous avons également tendu notre micro à Patrick Kanga, qui est le rapporteur du bureau politique du Parti pour la Réconstruction et la Démocratie PPRD en sigle. Il va nous donner également son avis.
Merci pour l'invitation. Une émission particulière. Je vous remercie. Bon, je pense que d'abord, avant tout, la politique, c'est une affaire de vocation. C'est une affaire de vocation, donc c'est un choix personnel que l'on se fait de vouloir aborder le combat politique. Et il y a de ce fait peu de femmes d'abord qui s'engagent dans le combat politique. Et la répartition des rôles se fait au niveau des structures politiques, qui sont les partis. Et cela au regard de divers critères et de diverses compétences. Et je pense que c'est déjà sur ces bases-là que les décisions s'opèrent au niveau de différents structures politiques pour savoir qui est-ce que l'on désigne, qui est-ce que l'on propose pour jouer un rôle décisionnel, soit au niveau des institutions, soit au niveau des partis politiques. Mais ce qu'il en est, par exemple, de mon parti, le PPRD, au niveau de son directeur politique, il y a plusieurs femmes. Et il est important de saluer que s'il y a un homme genré, le premier qui accompagne la présence de femmes au monde politique, c'est le président de la République, qui a notamment soutenu la réforme du code de la famille, qui a levé certains verrous pour permettre à la femme d'être plus émancipée sur le plan professionnel. Donc je crois qu'il y a quand même eu des démarches, il y a quand même eu des actes qui ont été posés pour encourager de plus en plus la présence des dames dans le cadre décisionnel et dans le champ politique. Mais c'est avant tout une question de vocation. Donc il faut qu'il y ait d'une part la volonté de batailler dans un secteur qui se veut assez âpre.
Vous avez parlé tout à l'heure des critères pour les choix de personnes à placer dans les organes de décision. Selon vous, les femmes ne répondent pas souvent à ce critère-là ?
Bien sûr que si, il y a plusieurs femmes compétentes, mais la proportion, il se peut que la proportion des femmes compétentes et des hommes qui s'engagent complètement en politique soit, ne soit pas dans les mêmes proportions, soit inégalée. Donc c'est peut-être ce qui fait que il y ait plus d'hommes dans le cadre décisionnel que certaines dames. Mais il faut reconnaître aussi que nous sommes dans un cadre culturel et sociologique où l'éducation a souvent promu une certaine présence de l'homme au détriment de la femme. Et certainement avec les évolutions de nos lois et de nos mentalités et des parents que nous sommes, que vous êtes, il y aura de plus en plus cette atteinte de la parité qui est déjà garantie au niveau de notre constitution.
Les femmes se plaignent souvent qu'elles ont des obstacles dans des partis politiques. C'est-à-dire, on ne tient pas compte de l'aspect genre, de ce qui peut empêcher la femme en tant que femme d'assister à des réunions, de travailler au sein des partis. Et c'est ce qui fait que souvent, comme vous avez parlé des critères...
En tout cas, ce que je sache au niveau de notre parti, on tient compte de tous ces aspects. Mais c'est une question de convenance mutuelle au niveau privé. Mais si les dames veulent s'engager sans discrimination et sans particularité, batailler au même titre que les hommes... Il faudrait tenir compte de tous les paramètres du travail que l'on se choisit de faire. Voilà pourquoi l'on insiste sur le caractère vocation qu'est revêt la politique. Parce que ce n'est pas un métier comme les autres, c'est comme l'enseignement, c'est comme l'armée. Il faut qu'il y ait vraiment de la conviction dans ce que l'on fait. Parce qu'il y a des contraintes, c'est vrai, physiques, qui peuvent parfois donner l'impression que c'est un milieu qui exclut les dames, pourtant pas. Et je pense qu'au PPRD, nous tenons vraiment en compte qu'il y ait cet équilibre du genre.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Nous nous sommes posé la question, la politique est l'apanage de l'homme. Alors nous avons également tendu notre micro à Madame Kankou qui est la trésorière du cadre de concertation de la femme congolaise, ainsi qu'à Madame Madeleine Aneka, vice-présidente du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile. Nous allons donc les écouter.
Il se fait que la femme est arrivée en politique longtemps après l'homme, et que les us et coutumes ont fait que on dise à la femme que la politique c'est une affaire de l'homme. Mais néanmoins, actuellement, il y a quand même des avancées très significatives. C'est ainsi que vous avez vu que la femme est là, mais à un nombre un peu réduit. Alors, il y a également, par rapport à la politique, il y a peu de femmes qui sont présidents des partis politiques. Ici au Congo, ce sont les présidents des partis politiques qui s'offrent eux-mêmes, qui font eux-mêmes leur promotion quand on demande un poste, lorsque très souvent on partage les soi-disant gâteaux quand ils se partagent le pouvoir.
Nous avons vraiment un problème de culture par rapport à notre collègue, entre guillemets, masculin. C'est culturel. Il faut qu'on parvienne à changer cette culture. L'homme congolais a été socialisé comme ça, que la femme ne doit être qu'en dessous de l'homme. Ça, c'est culturel. Ça, il a été élevé comme ça. Et on peut avoir autant de professeurs, autant d'experts, autant, mais vous prenez le cas des discussions qui ont eu lieu par rapport à la modification du code, à la modification du code de la famille. Vous savez les discussions qu'il y a eu autour de la femme chef de ménage. Vous savez les discussions qu'il y a eu. Ça, ce sont des discussions qui démontrent à suffisance que on a un problème de culture. on a un problème de culture. Et changer la culture, changer la mentalité, c'est ça le problème de fond. C'est ça le problème de fond. Mais au moins, nous disons qu'il y a une certaine évolution par rapport à l'éducation de la femme, par rapport à son expertise. Il y a une certaine évolution, mais il faut qu'on casse ce vitre qui ne permet pas à notre collègue homme entre guillemets d'accepter que la femme puisse gérer. Je voudrais vous dire un petit exemple. Je suis quelque part et je préside la structure. Et je suis la seule femme. Et un jour, 2 ans après, je préside la structure, sans complexe. 2 ans après, il y a un de mes adjoints qui me dit, « Félicitations, madame, c'est la première fois que je suis dirigée par une femme. Et vous le faites de bonne manière. » Donc pendant tous ces 2 ans-là, je crois qu'on était en train de m'épier pour voir quelles sont mes faiblesses et essayer de renverser la vapeur. Mais ce sont les compétences qui comptent et les femmes doivent avoir le courage de s'affirmer là où elles sont pour donner de l'exemple et inciter les hommes à accepter les femmes en tant que collègues dans le travail. Vous comprenez? Mais bon, c'est un problème pas seulement au niveau du Congo, hein. Pas seulement au niveau du Congo. C'est cette culture qu'il faut vraiment essayer de travailler dessus pour que... Je crois que les générations qui suivent, les générations des enfants d'aujourd'hui, de 35 ans, sont déjà dans ça pour dire que non, je ne prends qu'une femme qui travaille. Je crois qu'ici à Kinshasa, il y a une génération qui commence à dire eh, « il faut que ma femme travaille ». Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait des programmes et des politiques dans ce sens que l'État accompagne ce renversement de mentalité. Parce que si on ne le fait pas avec les moyens de l'État, les moyens des ONG ne suffiront pas. C'est l'État qui doit s'impliquer pour que la femme puisse retrouver sa place, puisse trouver sa place dans le milieu de travail. C'est un travail des gouvernants. Et nous devons accompagner le gouvernement à travailler dans ce sens.
Mais comment réduire cet écart sur la participation politique de la femme par rapport aux hommes? Pour Blanchine Manzanga, il faut proposer des programmes d'accompagnement et de coaching.
Nous rencontrons des femmes qui ont beaucoup de potentiel, qui ont parfois de la volonté, mais qui ont peur. Où elles n'ont pas cette volonté, donc il faut créer cette volonté en elles et apporter cette vision. Donc ce qu'il faut en fait pour que les femmes puissent se manifester ou prendre la décision de relever le défi du leadership au Congo, c'est leur proposer des programmes d'accompagnement. Quand on parle de programmes d'accompagnement, on parle de programmes de vrais, je veux vraiment insister sur cet élément, des vrais programmes de coaching.
Qu'est-ce que vous appelez vrai programme de coaching?
Parce que vous pouvez être en entreprise, on choisit quelqu'un dans votre bureau, vous êtes une nouvelle recrue, on choisit quelqu'un n'importe qui, on dit toi tu dois t'occuper de Blanchine et l'aider dans son nouveau poste. La personne n'a pas été formée, ne connaît pas les techniques d'accompagnement, n'a pas en fait un programme établi de comment vous allez vous rencontrer, quelles sont les tâches qu'il va vous assigner, comment est-ce qu'il va faire le suivi, comment est-ce qu'il va identifier vos besoins. Alors ce sera du genre assieds-toi là, écoute, et on parle un peu de tout et de rien. Mais l'accompagnement en termes de coaching et de mentoring, c'est d'abord l'évaluation des besoins ou la prise en considération de ce que la personne est et de ce dont elle a besoin pour atteindre en fait un objectif défini, de définir quels sont les types de travail que nous allons faire ensemble. Les méthodes que nous allons utiliser, les outils. Est-ce qu'on va se rencontrer de face à face ou on peut juste échanger à par email ou est-ce qu'il faut que je te donne des livres à lire et après on doit partager ensemble? Est-ce que je dois te jeter sur le terrain pour que tu puisses être dans la pratique directe? Donc c'est vraiment ça dont les femmes ont besoin. Parce que dans les programmes de coaching et de mentorat, il y a un travail sur le mental de la personne. L'accompagnement permet de développer la résilience, permet de développer la connaissance de soi, permet de développer beaucoup de choses qui sont nécessaires au leadership. Donc quand on parle de programmes de coaching et de mentorat, même dans nos entreprises privées comme publiques, je suis dans le domaine des ressources humaines et beaucoup de femmes que j'ai rencontrées disent que les pires ennemis de leur carrière, c'était d'autres femmes qui étaient là pour les bloquer ou les briser pour qu'elles ne puissent pas évoluer. Donc si même dans les entreprises, on a des programmes d'accompagnement, c'est-à-dire quelqu'un a une carrière qui a déjà débuté ou qui est déjà en cours et il y a des aînés, des modèles dans le sein de l'entreprise ou dans d'autres entreprises qui lui apportent des connaissances connaissance, elle va éviter beaucoup d'erreurs, elle va aller tout droit au lieu de prendre des chemins de tournée, de prendre plus de temps pour atteindre certains niveaux de leadership au sein de l'entreprise. C'est la même chose en politique. On disait pendant la réunion que les femmes congolaises, oui, il y a des femmes congolaises dans les domaines des affaires, de la politique qui ont émergé, qui sont là, visibles, mais est-ce qu'il y a cet élément de redevabilité qui est en compte? Combien d'entre elles peuvent nous montrer 10, 50, 100 femmes qu'elles n'ont pas seulement donné de l'argent, mais à qu'elles ont aidé à devenir elles aussi des politiques, des femmes commerçantes influentes qui à leur tour. Donc on a des femmes qui se font voir, qui sont là en termes de visibilité, qu'on voit toujours et encore dans toutes les réunions, dans toutes les rencontres, qui obtiennent le financement des organisations internationales, mais personne ne leur demande des comptes. Montrez-nous les femmes que vous avez développées, les femmes que vous avez élevées dans vos partis ou des femmes que vous avez permis d'atteindre des postes de direction dans les entreprises.
Mais madame, vous avez parlé encore d'un autre problème. Vous avez dit que, au fait, les médias n'aident pas les femmes. Pourquoi avez-vous dit cela?
L'une des intervenantes qui travaille dans le domaine des médias a souligné que les femmes modèles sont là et que les médias étaient la solution. Mais je pense que non, parce que nous avons des femmes qui sont visibles sur les médias. Mais quels sont le type de femmes? Et pourquoi sont-elles visibles dans les médias? Je pense qu'on a besoin que les médias travaillent à des produits de communication qui mettent plus en valeur. Pas seulement une femme qui parle bien, parce que bien parler, ce n'est pas ça le leadership. Mais encore une fois, des femmes qui démontrent des compétences réelles, qu'on peut suivre dans le domaine de leur travail, où on peut suivre leur parcours, parce que c'est ça aussi le mentorat, c'est montrer aux gens, j'ai commencé de rien, voici ce que j'ai fait, l'historique, et c'est ça. Si on avait des médias qui peuvent produire des émissions d'échange, de débat, parce que les femmes politiques se plaignent, elles arrivent sur un plateau de télé, l'homme, on va lui dire, quel est votre projet de campagne? Il aura le temps, 5 minutes, il part. La femme, on va lui dire, est-ce que votre mari est d'accord que vous puissiez postuler? On lui a bouffé déjà 3 minutes d'antenne et c'est terminé. Donc si les médias mettent vraiment en place des émissions ou des programmes, peu importe, qui mettent en valeur les compétences de la femme, nous aurons, les filles vont voir. Moi, je suis une femme influente et beaucoup de femmes m'appellent, me disent que je vous ai vu à la télé, la manière dont vous parlez, mes amis, mes parents étaient très fiers, disaient, et si tu pouvais être comme elle. Donc, si on peut donner plus de visibilité à ces femmes, pas intelligentes en termes de diplôme seulement, mais compétentes, les choses vont changer.
De l'entendre, les femmes doivent participer à la vie politique du pays. Ce n'est pas un cadeau. Les femmes doivent se battre comme les hommes et en plus de cela, elles doivent également être formées s'il le faut. Et c'est sur ces recommandations que nous allons vous quitter pour vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Parité et Famille. Merci à toute l'équipe, Jean-Marc Matouaki, Tina Salama, Thérèse Kankou, Nehu Kabina. Merci également à Lengoy qui a assuré la mise en onde. Je vous retrouve au prochain numéro de Parité et Famille. Bye.